texte que l'on connaît bien, un texte sur lequel on pourrait passer rapidement. La guérison d'un aveugle. Dans les évangiles, c'est quelque chose, j'allais dire, de classique, de presque banal. Pourtant, celle-ci a quelque chose de particulier qui m'a interpellé et sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous. Évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. Amen. » L'évangile de Marc a cette particularité, c'est que les miracles suivent les miracles, avec ce mot récurrent qui est utilisé aussitôt, aussitôt, aussitôt. L'évangile de Marc, on pourrait le qualifier de l'évangile de l'instantané, l'évangile du tout de suite, l'évangile du tout à coup. Pour quelle raison ? C'est tout simplement parce que l'évangéliste écrit aux Romains qui étaient friands de tout ce qui était puissance. Et donc, étant donné qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, il met l'emphase sur la puissance de Jésus. Et mes frères, mes sœurs, des aveugles guéris, nous en avons vu certains nombres. Nous le voyons dans les évangiles. Nous savons que des foules venaient et que parmi eux, des malades étaient guéris. Et bien sûr, nous continuons à croire que Jésus est capable de le faire. Nous continuons à croire que Jésus est celui qui guérit les corps, qui guérit les cœurs. Nous croyons que notre Dieu n'a pas changé et que même si dans notre pays de France, ces faits-là se font malheureusement extrêmement rares pour X ou Y raisons que nous ne développerons pas aujourd'hui, il n'en reste pas moins que notre foi, elle, ne doit pas vaciller et que cette réalité doit demeurer la même. Jésus-Christ est celui qui sauve, qui guérit, qui revient bientôt et qui baptise du Saint-Esprit. Ce sont des réalités que nous ne devons pas laisser s'enfuir parce que notre Dieu n'a pas changé. Et lorsque je lis ce texte, il y a trois choses qui remarquent mon attention. Je remarque que, première chose, c'est que ce miracle a une caractéristique bien particulière, c'est qu'il se fait en deux temps. Il se fait en deux temps. C'est comme, pardonnez-moi ce jeu de mots, comme si l'aveugle connaissait un moment de tâtonnement. Jésus l'entraîne à l'extérieur du village, le met à part, loin des bruits de la ville, loin de la foule peut-être. Et là, il va lui poser cette question. Que vois-tu ? Et cet homme va répondre, je vois des trucs bizarres. Je vois des arbres et ils marchent un petit peu comme des hommes. Je vois des choses, mais c'est pas complètement flou. C'est complètement flou, c'est pas clair, c'est pas distinct. J'arrive pas à mettre un mot, j'arrive pas à mettre vraiment quelque chose sur ce que je vois. Quel est cet état ? On sait que l'aveuglement spirituel fait partie des caractéristiques de l'homme sans Dieu. Et cet aveugle nous parle tout simplement de nous. Nous qui ne connaissions pas Jésus peut-être, nous qui ne connaissons pas Jésus peut-être, mais peut-être de nous également qui n'avons eu qu'une révélation partielle ou très très partielle, entre guillemets. Je pense qu'il y a des moments dans nos vies chrétiennes où l'on s'aperçoit qu'en réalité, on ne voit les choses spirituelles que de manière très floue. On ne voit les choses spirituelles que d'une manière qui n'est absolument pas claire. C'est le temps où nous avons la sensation qu'il y a quelque chose de plus et que nous ne savons pas comment nous y rendre, que nous ne savons pas comment y avoir accès. Mon frère, ma sœur, peut-être ce matin ou dans cette semaine, tu dis, mais il y a quelque chose dans mon cœur, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai la sensation que Dieu veut me donner quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai la sensation qu'il y a plus, mais je ne sais pas ce que c'est. Je le vois, je le sens, mais ce n'est pas clair. C'est un petit peu comme des hommes qui ressemblent à des arbres qui marchent. Je sens que Dieu veut me donner un truc. Je sens que Dieu veut me donner une dimension supplémentaire. Je sens que Dieu veut me donner une parole. Je sens qu'il y a quelque chose pour moi, mais je n'arrive pas à mettre de mots dessus. Je n'arrive pas à mettre de sensations dessus, c'est flou. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça signifie que Jésus s'est déjà occupé de ton cas. J'ai une bonne nouvelle, ça veut dire que Jésus, ce matin, va faire passer la deuxième lame. Et que tout comme cet aveugle, au sortir de ce lieu, je l'espère et je le crois, cette sensation, ce côté obscur, aura disparu et les choses seront devenues claires. Nous sommes une génération de l'instantané, j'aime le dire. On met de la poudre dans une tasse, on met de l'eau chaude, nous avons un café instantané. Dégoûtant, mais instantané. Prenez de la soupe Roico, vous la mettez dans un bol, vous mettez de l'eau chaude dessus, vous avez une soupe. Dégoûtante, mais instantanée. Vous prenez une boîte de ravioli, vous ouvrez la boîte de ravioli, vous la mettez dans le four à micro-ondes, vous avez des raviolis au cheval instantanés. Nous sommes une génération de l'instantané et les enfants de Dieu aimeraient que Jésus soit le Dieu de l'instantané. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Dieu n'est pas simplement le Dieu de l'instantané, il est le Dieu du processus. Et ce miracle nous le montre très bien. Comment ça ? Pourtant, l'évangile de Marc nous parle d'aussitôt. Dites-moi, pourquoi Dieu a mis 6 jours pour créer la terre et l'homme ? Il aurait très bien pu le faire d'un seul coup. Dieu est le plan, Dieu est le Dieu du processus. Pourquoi Dieu a-t-il mis autant de temps pour accomplir le plan du salut au travers de Jésus alors qu'il l'avait décidé dès le livre de la Genèse ? Ça nous aurait évité le Lévitique et les Nombres. Ça aurait été sympa, parce que Dieu est le Dieu du processus. Pourquoi, quand on lit le livre de l'Apocalypse, on le trouve si décousu et on n'y comprend pas tout ? Pour pas dire on n'y comprend rien. Tout simplement parce que les révélations de l'apôtre Jean se sont faites de manière dispersée et qu'il a essayé de les compiler comme il l'a pu. Ce n'est pas une révélation que Jean a reçue, d'un seul coup, et qu'il a écrit, mais c'est une somme de révélations qu'il a juxtaposées. Parce que Dieu est le Dieu du processus. Le retour de Jésus, comment se fera-t-il ? En un clin d'œil, merci. Mais auparavant, il y aura toutes sortes d'événements qui le précéderont. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu du... Et ce qui nous paraît être instantané à nous est en réalité le fruit d'un processus. Et la guérison de cet aveugle, c'est le fruit et c'est la résultante d'un processus. Il est aveugle, des amis le prennent en pitié, ils apprennent que Jésus est là, ils l'emmènent au pied de Jésus, et là, ils supplient Jésus, Jésus l'emmène hors du village, et même sa guérison se passe en plusieurs temps. Mes frères, mes sœurs, on a beau se convertir de manière instantanée, il n'en reste et il n'en demeure pas moins que cette conversion instantanée est le fruit d'un processus spirituel. Et que ça ne tombe pas du ciel, pardonnez-moi l'expression, du jour au lendemain, comme ça, mais que c'est le fruit d'un processus. Regardez. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit serrer dans notre cœur. Si tu vois quelque chose de flou, si tu as un sentiment flou en toi, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à mettre de mots, dis-toi bien que ça fait partie du processus divin et du processus que Dieu a engagé pour toi. Peu importe depuis combien de temps ça dure, ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Le peuple juif, le peuple hébreu, avait l'ombre des choses à venir au travers de leur tradition. C'est ce que dit Paul aux Colossiens. Colossiens 2:17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrira aux Galates, dira que la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Au travers de la loi, le peuple n'avait que l'ombre de Dieu, l'ombre de l'amour de Dieu, qui sera manifesté ensuite en Jésus. Nicodème viendra de nuit voir Jésus, pour quelle raison ? Parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à découvrir en lui. Les disciples avaient eu une révélation, ils avaient côtoyé Jésus, et Pierre même avait eu la révélation qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Pour autant, l'œuvre de la résurrection, il ne l'avait pas comprise. Je veux vous dire quoi par tout ça ? C'est que lorsque l'on se convertit, lorsque l'on est de nouveau, ça ne règle pas tout, vous le savez très bien. Et que tout est en processus. Que tout fait partie d'un processus et d'un plan divin que Dieu a pour nous. Et qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas maintenant, mais que l'on comprendra plus tard. Il y a des choses que l'on est capable de porter plus tard, mais que l'on n'est pas capable de porter maintenant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes peut-être que des enfants ou des adolescents dans la foi. Et que demain, on a la prétention d'être devenus des hommes ou des colonnes. Et que là, on pourra les porter. Cet homme, il va voir plus nettement lorsque Jésus lui aura parlé. Ne sois pas frustré de ce que tu ressens dans ton cœur. C'est la vérité. Jésus va y mettre un mot. Jésus te permettra de voir les choses clairement. Deuxième chose que l'on va voir et sur laquelle on va s'arrêter. Je conclurai pendant la première partie pour dire que Jésus a pu nous toucher une première fois. Mais que ce matin, je crois que Jésus veut nous toucher une seconde fois. Et c'est ce qui va se passer pour cet aveugle. Jésus va devoir le toucher une seconde fois, deuxième temps. Tout ne se passe pas à la conversion, tout n'y est pas réglé. Et je pense que dans notre cœur, il est nécessaire que nous connaissions une seconde révélation. Quelque chose de plus. Vous vous souvenez de l'église de Laodicée ? C'est une église qui avait tout. Elle avait tout. Elle devait avoir des richesses. Dans la ville, il y avait une industrie de textile, il y avait une école de médecine. Il y avait tout ce qui allait bien. Elle était connue, cette école de médecine était connue notamment pour avoir un collyre pour les problèmes de vue. Et lorsque l'Esprit va écrire à cette église, que va-t-il lui dire ? De venir acheter ce qu'il faut, parce que alors qu'elle croit être vêtue, elle est nue. Alors qu'elle croit avoir la vue, en réalité, elle est aveugle. Il existe une sorte de maladie que les chrétiens contractent qui s'appelle la cataracte spirituelle. Vous savez, hein ? Ce petit voile qui se met devant les yeux avec l'âge. L'opération est une opération au laser, très facile à faire. Mais quand on a la cataracte, c'est pénible, paraît-il. L'apôtre Paul priait pour que les Éphésiens aient les yeux illuminés. Il dira à Éphésiens 1:18 « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. » Ça m'a interpellé lorsque j'ai relu ce texte, disant « Mais Paul s'adresse à des chrétiens quand même. » Et Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse aient conscience de la grandeur de l'espérance qui s'attache au salut en Jésus-Christ. Paul, ils sont convertis. Ils savent qu'ils sont sauvés, ça devrait suffire. Mais en réalité, Paul prie de manière à ce que dans leur cœur, il y ait une dimension supplémentaire et qu'ils connaissent, comme lui-même a connu lorsqu'il a été ravi, la beauté de ce qu'il y a là-haut. Ce qui signifie une chose, c'est que, quelles que soient nos années de conversion, nous avons toujours besoin d'une révélation supplémentaire. Parce que tout comme cet aveugle, nous voyons toujours les choses de manière floue. Nous n'avons pas une vue claire, nous n'avons pas une vue parfaite de ce qu'est Jésus, de son œuvre à la croix et du prix qu'il a payé ainsi que de ce qu'il nous a réservé. Tout simplement parce que nous sommes sur la terre. Nous avons besoin que Jésus nous touche une seconde fois. Nous avons besoin que la main percée du Maître nous touche une seconde fois, que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses plus profondes, des choses qui nous emmènent plus loin. Et la condition sine qua non pour que cela se fasse, c'est que nous en ayons soif. Cet aveugle a accepté de venir au pied de Jésus, a accepté que Jésus le mène sans voir où est-ce qu'il l'emmenait. Je crois de tout mon cœur que toutes choses sont en travaux, mais que nous avons peut-être besoin d'une seconde Pâque. Dans la parole de Dieu, on voit plusieurs exemples d'hommes qui ont eu besoin que Dieu s'y reprenne à plusieurs fois. Pourquoi est-ce que je parle de seconde Pâque ? C'est que lorsque le peuple est sorti, mais Dieu ne voulait pas, donc ils ont fêté la Pâque ensemble. Et la volonté de Dieu, c'était que cette génération rentre directement dans le pays promis. Et vous connaissez les 10 espions, enfin les 12 espions, 2 étaient pour, 10 étaient contre, etc. Et ils ont traîné pendant 40 ans dans le désert. Et une génération est née dans le désert quelque part. Josué, chapitre 5, verset 2, « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et les circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Vous savez à quoi m'a fait penser cette génération à qui on demande de circoncire à nouveau aux enfants de chrétiens. Ils sont sortis d'Israël, enfin, ils sont sortis de l'Égypte, pardon, avec leurs parents dans les landeaux. Et ils ont grandi dans le désert. Et de la même manière, quand on est enfant de chrétien, on est emmené hors d'Égypte, on est emmené dans l'Église, on est emmené dans la foi avec les landeaux. Bien souvent, on fête les Pâques sans même s'en rendre compte. Parce qu'on a toujours vu nos parents aller au culte le dimanche matin et prendre la scène. Je sais, j'en suis un, je sais de quoi je parle. Et puis, on pense connaître Dieu. On se fait baptiser. On expérimente des choses et un petit peu comme Samson, on est saisi. Mais ce n'est que passager. Et on a besoin que le Seigneur nous donne, nous touche une seconde fois. On a besoin de vivre une seconde Pâque. Besoin de vivre quelque chose de plus. D'être marqué définitivement. Parce que suivre, ce n'est pas croire. Suivre, ce n'est pas être sauvé. Mais suivre Jésus, c'est une démarche personnelle profonde. Et c'est une rencontre intime avec Dieu. Je peux vous parler sincèrement. Je suis surpris parfois de voir des hommes et des femmes qui se font baptiser. Et peut-être que mon successeur dira la même chose de moi. Il le dira certainement. Et se convertir après le baptême. Non pas que l'engagement ne soit pas sincère, mais c'est que, tout simplement, il a manqué une dimension. Et il y a eu besoin d'un second coup de couteau, de manière à rappeler les choses et à les sceller définitivement. Est-ce mal? Est-ce bien? Peu importe. Est-ce culpabilisateur? Ce que je dis, ça n'a pas vocation à l'être. Ce sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est que, tout comme cet aveugle, il est normal que parfois, nous devions être touchés une seconde fois. Il est normal que nous devions connaître une seconde grâce. Il est normal que nous devions qu'il soit nécessaire que nous rencontrions Jésus d'une manière plus particulière, plus intime. De la même manière que, pour certains couples, il est important de partir, se rappeler des moments importants, ou partir ensemble et passer du temps ensemble de manière à se redécouvrir. Eh bien, avec Jésus, c'est un petit peu la même chose. Il est normal de redécouvrir celui que l'on aime et celui qui nous aime, et qu'il scelle à nouveau des choses en nous. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas forcément que l'on a commis des péchés, mais c'est tout simplement que la chair repousse. C'est tout simplement que l'habitude est là et qu'on vit dans un monde qui nous prend la tête. Quelles sont les occupations que l'on n'a pas ? Et on a besoin d'être marqué à nouveau. On a besoin de ressentir l'amour de Jésus. Jésus t'aime ! D'accord. Oh, je vous ai pris par surprise, d'habitude je vous préviens, je vous prépare mieux. On a besoin. Deuxième homme qui a connu une deuxième lame de rasoir, entre guillemets, c'est Élie. Prophète Élie est en dépression, il est sous son genêt. Et là, quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il demande la mort et qu'il dort, il y a un ange qui arrive. Je sais pas, vous êtes mal, il y a un ange qui apparaît, je sais pas ce que ça vous fait, vous, mais moi je pense que ça me remotiverait pour un certain temps. J'ai pas un ange, j'ai ma femme. Et il n'empêche que cet ange, non seulement c'est un ange, c'est extraordinaire, mais en plus il fait la cuisine. Et donc, je dirais rien. Non, j'allais dire que les anges, il n'y a pas de sexe pour les anges, donc voilà. Ça aurait pu être pris comme une blague misogyne, il ne faudrait pas quand même. Et donc, cet ange va faire un gâteau. Et qu'est-ce que va faire Élie ? Il va manger et puis il va boire de ce gâteau divin. Je ne sais pas, on se lève ? Mais non, Élie, il va rester sous son genêt, il va se rendormir. Et il va falloir une deuxième ration de gâteau pour qu'Élie se lève. Élie était-il un pécheur ? Élie était-il quelqu'un qui, finalement, n'était pas un homme de Dieu ? Absolument pas. Et même avec ce gâteau, cette deuxième part de gâteau, il ne va marcher que 40 jours. Et où est-ce qu'on retrouve Élie ? On le retrouve dans une grotte, en train de se cacher. Le genêt a fait place à la grotte. Et là, il faut l'Esprit de Dieu, le roi, qui viendra pour le sortir de sa grotte et lui donner une autre mission. On s'aperçoit que pour Élie, il faudra un deuxième coup de rasoir, voire même un troisième, de manière à ce que cet homme de Dieu retrouve les forces qui étaient les siennes. Et combien de fois avons-nous été déçus parce que on a prié, on s'est investi, on s'est investi dans le combat et puis on s'est dit, voilà, il se passe un petit truc et une semaine après, on baisse les bras. Pff, non, j'y arriverai pas. Et du coup, on laisse tout tomber. On fait comme Élie, on se rendort et puis l'ange, il revient nous taper dans les côtes et puis là, qu'on lui répond, ça n'a pas marché la première fois, ça ne marchera pas la seconde. C'est un petit peu comme ça que l'on raisonne. J'ai prié, ça n'a pas marché. Donc je ne prie plus, et donc je n'y crois plus. J'ai cru, ça n'a pas marché, donc je ne crois plus. Je me suis investi, j'ai servi le Dieu de mon père, de mes pères. Ça n'a pas fonctionné, donc je ne sers plus. J'ai pardonné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien fait, donc je ne pardonne plus. J'ai aimé, bref. Notre Dieu exaucera toujours ses promesses. Les souffrances qu'il y a dans ton cœur, le pourquoi tu es sous ton genêt, Dieu le sait. Et reconnais qu'il a envoyé des solutions pour toi. Reconnais qu'il t'a fait du bien. Reconnais qu'il t'a fait peut-être marcher 40 jours. Laisse-le te toucher à nouveau. Laisse-le te toucher à nouveau. Troisième, non, pas troisième. Première chose, cet aveugle a connu un processus et non pas un instantané. Peut-être te rends-tu compte qu'il y a un processus dans ta vie, c'est normal. Deuxièmement, il est nécessaire que tu sois touché une deuxième fois. Et que tu te laisses émouvoir, que tu ouvres ton cœur, comme la première fois. Troisième chose, on remarque que la méthodologie est toujours la même. Qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va utiliser sa salive. Sa salive, ça nous parle de quoi ? La parole. Quand on va mal, ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose que la parole de Dieu. Et je reviens à mon brave Élie, j'aime bien le souligner ça parce que ça me paraît important. Ce n'est pas la présence de l'ange qui l'a relevé, c'est le gâteau. C'est la parole. Ce n'est pas le surnaturel, mais c'est la parole. Et lorsque on veut voir à nouveau, lorsque dans notre cœur on sent que Seigneur a quelque chose à nous donner, qu'il veut nous donner quelque chose, on discerne quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Lorsque l'on est dans cet état-là, ou alors lorsque l'on est fatigué, mes amis, mes frères, mes sœurs, n'allez pas chercher autre chose que la parole de Dieu. C'est là que les réponses vous seront données, c'est là que les réponses vous seront apportées, c'est là que la connaissance et la révélation eh bien, viendra. Ce n'est pas ailleurs. Le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Ne cherchez pas, n'attendez pas un don spirituel. N'allez pas chercher le don spirituel. S'il vient, il viendra alors que vous ne vous y attendez pas. Mais aller chercher une réponse dans un don spirituel, c'est risquer de trouver du poison. Non pas que le don spirituel ne sera pas inspiré, mais que la réponse ne sera pas claire et qu'elle sèmera le trouble dans notre âme. Je dirais, n'allez même pas chercher forcément auprès de conseillers divers et variés, mais tenez-vous à genoux au pied de votre lit et allez les chercher auprès de Dieu. Mon ami, peut-être que c'est la première fois que tu viens dans l'église et l'existence eh bien, de ton Seigneur, l'existence de Jésus, c'est quelque chose qui germe en toi, qui grandit en toi. C'est encore flou, mais sache que ce matin, eh bien, au travers de sa parole, le Seigneur veut vraiment éclaircir les choses. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu es sur ton cœur, va chercher la confirmation dans la parole de Dieu. Et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Seconde chose que l'on voit, c'est que Jésus va, et ça c'est étonnant, va prendre cet homme à l'écart. Va le faire sortir du village. Et quand on veut voir clair, c'est à l'écart que ça se passe. On quitte les bruits de cette vie. Et on va chercher Dieu. Troisième chose que l'on remarque, c'est qu'il se laisse conduire sans voir. Un petit peu comme Saul de Tarse, qui va se laisser conduire. Vous imaginez Saul de Tarse, cet homme de caractère, pour ne pas dire cet homme caractériel, qui va se laisser conduire comme un mouton dans un endroit qu'il ne connaît pas, chez Ananias. Tout simplement parce qu'il a confiance dans celui qui s'est révélé à lui. Quatrième chose que l'on voit, c'est que cet homme, lorsque Jésus va lui dire « Que vois-tu ?», il va fixer Jésus. Et là, c'est toute la dimension de la foi, de l'homme et de la femme qui reçoit une parole de Jésus, et même si ce n'est pas clair, qui regarde fixement le chef et l'auteur de sa foi. Pour qu'une promesse vienne au jour, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ces choses-là sont indispensables. Pour voir clairement, ces choses-là sont indispensables. Faire taire les bruits de son cœur, on pourrait rester une prédication là-dessus, je ne le ferai pas, rassurez-vous. Faire taire les bruits de la terre, accepter de suivre Jésus, lui faire confiance, aller chercher la solution dans sa parole et pas ailleurs. Et regardez fixement à lui en disant « Seigneur, je vais voir clair, je vais voir clair. Conclusion. Je terminerai sur cette phrase. Tu as tout et pourtant tu ne vois rien. Ou peut-être reformulerai-je, tu as tout et pourtant tu ne vois plus. Tu vois plus l'amour de Dieu pour toi. Tu vois plus toute la minutie de Jésus pour toi. Tu ne vois que l'eau qui te submerge. Tu ne vois plus la beauté de ton mari, la beauté de ta femme, mais tu ne vois que les défauts. Tu ne vois plus la beauté de tes enfants, mais tu vois que le fait qu'ils te coûtent cher. Tu ne vois plus ce que Dieu te donne. Mais tu regardes uniquement à ce qu'il ne te donne pas. Tu ne vois plus la croix, tu ne vois plus le Fils de Dieu sur la croix. Tu ne vois plus l'œuvre de Jésus. Tout ça, c'est dans le passé. Tout ça, c'est remis dans le grenier de ton cœur. C'est devenu flou. Non pas parce que la réalité en est floue, mais parce que tu t'en es éloigné. Et qu'il y a tellement de choses entre la croix, entre l'amour de Dieu, entre Dieu et toi. Tellement de choses. Tellement de douleurs, tellement de souffrances, tellement d'incompréhension, tellement d'amertume. Tu n'y vois plus clair. Tellement de larmes. Tellement de tristesse selon les hommes et tellement peu de tristesse selon Dieu. Ce matin, tu es en dehors de la ville. Fais taire les bruits de ton cœur. Et pendant 5 secondes, là, fixe tes yeux sur Jésus. Regarde-le fixement. Vois ses mains percées. Vois son côté percé. Vois ses souffrances. Mais vois son amour. Laisse ces choses-là revenir sur ton cœur. Oublie ta religiosité, ne te dis pas que tu sais tout ça. C'est pas vrai, tu n'en sais plus rien, t'as tout oublié. Ton cœur s'est endurci. C'est plus un cœur de chair que tu as, c'est un cœur de pierre. Fixe tout simplement ton regard, tout comme la première fois, sur l'amour de Jésus. Et laisse-toi envahir par son amour. Fermez nos yeux. Demandez au Seigneur vraiment d'éclairer. On est à l'écart.